Bonjour à tous, ou bonsoir au choix. Merci d'être fidèle à Radio Courtoisie. Pour ceux d'entre vous que ça interpelle, cette musique, c'est celle du film Les Aventuriers, François de Roubaix, un compositeur que j'adore, Lino Ventura, Alain Delon, une belle époque du cinéma français. Les médias se multiplient, vous le savez, la technique évolue à une vitesse fulgurante, les réseaux sociaux deviennent, paraît-il, indispensables. J'avoue humblement m'en passer assez bien. Et je dois dire que l'expression mi-sidéré, mi-navré de mes interlocuteurs quand je leur annonce fièrement n'avoir ni WhatsApp, ni Instagram, ni TikTok, ni le déjà démodé Facebook, ni LinkedIn, ni X, ni Twitter, ni rien, cette expression est assez jubilatoire. La radio, en revanche, ça reste. Son intérêt, d'abord c'est pratique, on peut l'écouter n'importe où. Je vous suggère le bain. C'est très bien, c'est délectable. Mais sérieusement, l'atout majeur de la radio, c'est qu'elle stimule l'imagination. Comme la lecture, au fond d'ailleurs, dont nous allons parler plus tard avec un de nos invités. D'ailleurs, le titre de l'émission Les Neiges du Kilimandjaro, c'est celui d'une nouvelle de Ernest Hemingway, adaptée au cinéma dans les années 50. Voici un extrait.
Le Kilimandjaro, que les neiges revêtent d'un blanc manteau, est un volcan haut de 5893 mètres. On prétend que c'est la plus haute montagne de l'Afrique. Sur le flanc ouest, près du sommet, se trouve la carcasse congelée et desséchée d'un léopard. Personne n'a su expliquer ce que le léopard cherchait à cette altitude.
Voilà, cette phrase qui est l'exergue de la nouvelle et qui est citée dans le film avec Ava Gardner et Gregory Peck, cette phrase me fait rêver depuis toujours, à savoir, eh bien, de quoi s'agit-il? Pourquoi est-il allé là-haut? Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Pourquoi nous prenons des risques? Pourquoi parfois nous exposons notre vie? Pourquoi nous essayons de nous dépasser? L'idée de cette émission, c'est d'inviter des gens qui se dépassent d'une manière ou d'une autre, qui tentent de se dépasser, d'aller plus loin, essayant de comprendre pourquoi. Vers 19h, nous aurons avec nous Sophie de Bardonnèche, une jeune violoniste qui s'est spécialisée dans le baroque et qui exhume des compositeurs un peu oubliés avec un enthousiasme communicatif. Mais tout de suite avec nous en studio, Isabelle Georges, chanteuse, danseuse de claquettes, comédienne, entre autres, entertainer, comme disent les amis américains. Merci d'être là.
Merci de m'avoir invité.
Vous êtes produite, j'ai regardé ça, à Mogador, à Chaillot, au Théâtre des Champs-Élysées, partout en France, en Belgique, en Australie, en Grande-Bretagne, la liste est longue. Quels seraient vos sommets du Kilimandjaro que vous aimeriez atteindre? Qu'est-ce qui vous fait encore rêver que vous n'avez jamais fait?
Carnegie Hall.
Ah, dis donc, vous êtes ambitieuse.
Non, voyager le plus possible avec mes chansons, avec mes spectacles. C'est ça le Kilimandjaro. Continuer à voyager le plus longtemps possible.
Est-ce que cette existence est conforme à vos rêves de jeune enfant?
Tout à fait, elle excède même mes rêves d'enfant.
Oui, vous aviez tout de suite, très jeune, vous êtes intéressé à cette musique, vous pensiez en faire une carrière, une vie?
Non, je ne savais pas que c'était possible, même si ma grand-mère faisait de la musique de scène pour les pièces de Ionesco ou Mauclair. Mais j'avais pas encore cette conviction-là. J'aimais juste la musique, j'aimais la scène, et je me disais, tiens, ça serait vraiment chouette de faire quelque chose là, mais je savais pas encore quoi.
Ce qui est assez amusant, étant donné votre âge, c'est que vos idoles auraient dû être normalement George Michael, Prince, oui. Michael Jackson. Eh bien non, ça a été Fred Astaire et Judy Garland. Et comment ça se fait?
Personne n'est parfait. Non, ben en fait, j'ai été enfant malade. Quand j'étais petite, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital Necker. Et deux choses m'ont été révélées à ce moment-là. La première, c'est ma maman me faisait chanter pour ne pas avoir mal. Et du coup, la voix, l'instrument, le chant, ça m'a apparu comme quelque chose d'assez extraordinaire. Une possibilité de transcender tout ce qui pouvait arriver de moche. Et mon papa, qui avait vécu aux États-Unis avant ma naissance, avait beaucoup de musique américaine à la maison. Et puis ma maman aimait beaucoup Judy Garland et du coup j'ai découvert Judy Garland, Fred Astaire, les comédies musicales presque avant le répertoire français à ma disposition à cette époque-là. Voilà. Et c'est vrai que les comédies musicales, ça me faisait rêver, comme j'étais quand même pas mal clouée dans un lit. Quand je voyais Fred Astaire s'élancer avec Ginger Rogers ou je voyais Sid Charis, ou je me disais c'est extraordinaire, ça me donnait la bougeotte.
Et ça aurait pu être, je ne sais pas, les Beatles, ça aurait pu être les Stones, non, ça n'a pas. Vous n'êtes pas passé par ce stade-là, pas du tout.
Ah si, tout à fait. Enfin, moi, j'aime tous les styles de musique, je trouve ça passionnant, j'adore tous les créateurs, tous ceux qui amènent quelque chose de nouveau à un moment ou à un autre, qui essayent de nous faire voir un peu plus loin, de nous proposer quelque chose de nouveau. Mais j'avoue que Judy Garland, ça a été vraiment mon coup de foudre premier, parce que c'est ce petit bout de bonne femme qui faisait extrêmement rêver à chaque fois qu'on la voyait sur un écran. Elle avait quand même une vie pas très drôle et je trouve qu'elle a un sens de l'humour assez décapant et une créativité, une façon de chanter qui est pareil, de l'ordre de la résilience, de la transcendance, et moi ça me parle.
Mais vous aimez aussi, vous le disiez, la chanson française.
Tout à fait.
Vous reprenez certains classiques avec les orchestrations nouvelles. Mmh. Ça se passe à Montpellier, c'est avec Radio France Occitanie. Vous reprenez le point sonore des Lilas dans une version que j'adore.
Merci.
Des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que des gars se la coulent douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Changer à opéra, je vis au cœur de la planète. J'ai dans la tête un carnaval de confettis. J'en emmène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que des correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou, je fais des trous. Mais le bateau se taille et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûre, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a toi de
Le poinçonneur des lilas, vous avez reconnu la voix mélodieuse de Serge Gainsbourg, un peu changée. Non, c'était bien sûr Isabelle Georges qui est notre invitée aujourd'hui. Isabelle Georges, je voyais que vous écoutiez avec intérêt. On a un regard critique, comment ça
oui.
se passe?
Oui. Oui, on entend plein de petites choses où on se dit, même dans l'interprétation et tout, mais c'est ça qui est formidable, le fait d'être sur scène, ça permet, c'est assez éphémère, fragile. Une fois, c'est ce soir-là, c'est ça, et un autre soir, ce sera autre chose. Et, mais c'est, voilà, c'est perfectible, toujours.
Toujours. Là, vous avez entendu un défaut, par exemple.
Des petites choses.
Avec nous aussi aujourd'hui, Renaud Delourme, merci d'être là. Renaud, bonjour.
Bonjour Marc.
Vous êtes éditeur et en tout début d'émission, j'expliquais que nos invités avaient su se dépasser pour gravir leur propre neige du Kilimandjaro. Vous avez été longuement un homme de télévision, vous avez une société qui faisait la diffusion de programmes et de, qui a succès, de DVD, Montparnasse Productions. Vous avez quitté ce monde-là, le monde de l'image, pour retourner vers l'écrit, en sens inverse de ce que fait tout le monde en ce moment. Comment ça se fait?
Alors juste avant pour dire... que j'écoutais Isabelle en train de chanter, je trouvais qu'elle avait beaucoup de chance. Elle chantait d'ailleurs en même temps qu'elle entendait la chanson.
Uh-huh.
Elle doublait la chanson. Et que c'est un de mes grands regrets dans la vie, alors dans les neiges à construire, c'est de ne jouer ni d'un instrument de musique, ni de chanter.
Vous auriez aimé... bah. Oui, mais restons réalistes, Renaud. On parle des choses qu'on peut réaliser maintenant. Alors, quel est le sommet que vous voudriez atteindre maintenant, quel serait-il?
Ah, le sommet, c'est d'écrire et d'être publié de ce que je suis en train d'écrire et que j'aime. Les histoires que j'invente, les romans, les,
parce que vous êtes
les fictions.
Je vous présente comme éditeur, c'est vrai, mais vous écrivez aussi.
J'édite toujours et j'essaie d'écrire. Je ne suis pas encore écrivain, je ne suis pas encore auteur, je ne le sais peut-être jamais. On ne l'est que lorsqu'on est publié, c'est-à-dire qu'un éditeur vous choisit, choisit votre texte. C'est ce que je fais comme éditeur.
Oui, c'est ça.
Je sais. Je consacre quelqu'un un jour par ce pouvoir invraisemblable qui est de dire « ça me plaît, ah oui, j'ai envie de le publier
bah, devant un manuscrit ». Un peintre, après, il doit trouver une galerie, mais il peut toujours finir son œuvre. Un auteur qui n'est pas publié, il n'existe pas, vous le disiez.
Oui, alors un peintre, il a quand même besoin
d'un galeriste,
d'être vu, oui. Il a besoin d'être vu, il a besoin d'être connu, il a besoin de la critique. Mais tous les artistes sont dans cette situation-là. Et alors, je dirais que les éditeurs aussi, parce qu'ils courent après l'idée que ce qu'ils sont en train de publier va avoir du succès.
Donc, j'espère.
Une partie de ma vie, des métiers que j'ai pratiqués, c'était effectivement de faire connaître, reconnaître la qualité de quelque chose.
Vous, est-ce que vous aviez, dans ce jeune âge, on en parlait à l'instant, cette passion pour la chanson, est-ce qu'assez vite, l'idée d'en faire un métier s'est imposée à vous ?
Pas si vite que ça, mais ça s'est passé un peu malgré moi. Et tout à coup, et j'ai reconnu, je me suis dit, tiens, bah, c'est possible, alors j'y vais. Mais en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je voulais absolument être sur scène, mais je ne savais pas encore exactement quoi y faire, si ce n'est chanter. Mais chanter quoi ? Et en fait, j'ai eu la grande chance de rencontrer des gens extraordinaires qui m'ont permis de faire ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire... Il y avait la comédie musicale américaine, mais il y avait la chanson française. J'aimais le mélange des musiques. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer notamment Anne-Marie Gros au tout début, qui est une chorégraphe assez extraordinaire, qui m'a fait un premier cadeau. Et après, ça ne s'est jamais arrêté. Et du coup, j'ai appris et je me suis retrouvée en train de faire ce que j'aimais et j'ai continué. Voilà.
À quel âge êtes-vous montée sur scène pour la première fois?
Professionnellement 14 ans. Mais avant, les spectacles de fin d'année.
Bon, je ne compte pas ça, tout le monde l'a fait. Je ne compte pas ça. Même Ron a dû chanter à 10 ans avec son école.
Peut-être. Peut-être. Ouais, je n'ai pas le souvenir. Franchement,
ça n'a pas été enregistré.
Je pense que personne n'en a le souvenir.
C'est regrettable.
Mais... il faut dire que aussi, j'avais la chance de. Ma grand-mère accompagnait les cours de Christiane Vossard à l'opéra. Et j'ai eu la chance de voir évoluer pas mal d'étoiles. J'étais cachée sous le piano quand elle me gardait et ça aussi, ça me faisait pas mal rêver de pouvoir mélanger la danse, la musique et le chant.
Isabelle Georges a donc voulu très vite être chanteuse. Est-ce que vous êtes très vite, jeune homme, vous teniez un journal, vous vouliez écrire Renaud Delourme ?
Alors, je pense que très vite, en tout cas, l'actualité m'intéressait et que très vite, j'ai eu envie d'en faire partie, c'est-à-dire de la raconter, de raconter cette actualité. Et comme je crois aux circonstances et aux chances et au hasard, j'ai eu la chance effectivement de rencontrer des gens, alors dont on a probablement oublié le nom aujourd'hui, peut-être pas vous.
Allons-y.
Mais qui me, Joseph Pasteur,
oui,
Jacques Paoli.
Évidemment, Europe 1.
Un homme de télévision, qui était le patron à l'époque de la première et la deuxième chaîne, qui m'a dit « je n'ai pas de travail pour vous, mais revenez me voir dans quelques mois, après être allé voir mon cousin, car en fait il était corse, Joseph Pasteur, il s'appelait Roque Sani. » Et je vais vous envoyer, allez voir Jacques Paoli, qui est mon cousin, et je pense qu'il était patron de la rédaction d'Europe 1 à l'époque. Il m'a confié un gros Nagra, et puis je suis parti faire un reportage en
un
métro.
Gros magnétophone.
Oui, un gros magnétophone, vous avez connu ça, les gros machins. Et je prenais le métro, et j'allais faire des interviews avec ça, et on commence comme ça, le journalisme.
Vous croisiez le poinçonneur des Lilas, d'ailleurs, dans le métro.
Absolument, oui. Alors, sans chanter, mais oui.
Et puis, j'accélère un peu, parce que l'histoire de tous est assez longue, mais l'extrait qui suit, c'est à nouveau Isabelle Georges qui chante, devrait quand même vous intéresser en tant qu'homme d'image. Écoutez plutôt. Daddy. reprise de Marilyn par Isabelle Georges, qui s'écoute avec beaucoup d'attention. Ça m'amuse de vous voir faire ça. Donc, je pensais que ça vous intéresserait, Renaud, parce que c'est Marilyn, c'est la star de cinéma. Donc, ça rejoint un peu vos deux univers, car vous avez commencé, vous le disiez, comme homme d'image, radio puis télévision. C'est ça le début de votre carrière.
Ouais, comme journaliste.
Voilà.
Bon, comme journaliste à la recherche de la réalité et de la façon de le raconter.
La fiction ne vous intéressait pas à l'époque ?
Non, pas tellement. Je lisais beaucoup, hein. Mon premier livre, c'était à 7 ou 8 ans, Les Trois Mousquetaires, et on me cherchait.
Si jeune que ça ?
Oui, si jeune que ça, oui, précoce pour ça en tout cas. Le reste, je ne sais pas.
Bon, c'est merveilleux, il n'y a pas mieux que Les Trois Mousquetaires, je suis d'accord avec vous.
C'est un beau départ.
Absolument, quatre amis, tout était bien.
Oui.
Et alors, quel a été le point ultime de votre carrière à la télévision ?
Alors, je vais raconter simplement une petite chose, tout à fait début, je suis retourné à la télévision. J'ai découpé des dépêches pendant 6 mois, puis à un moment donné, le patron des infos gênées, Jean-Pierre Chappelle, m'a fait venir et il m'a pris dans son équipe. Les infos gênées, ce sont les faits divers, les chiens écrasés, tous ces trucs-là. Et puis un soir, il y a une dépêche qui est tombée, j'étais le journaliste de permanence, la dépêche annonçait 3 morts dans un tunnel avec un train. En fait, c'était le tunnel de Vierzy, je suis parti dans le brouillard avec une équipe de télévision. En fait, il y avait 140 morts, c'était épouvantable, c'est une histoire épouvantable. Je suis rentré dans ce tunnel, j'étais jeune journaliste débutant, je m'en souviendrai toujours, hein. Après 140 km dans le brouillard. Et ça démarre comme ça la vie. Hein.
Ça peut démarrer plus gaiement, mais...
Non, ça démarre aussi comme ça. Oui, il y a des choses gaies, heureusement. Il y a plein de choses gaies. Il y a des rencontres. C'est beaucoup des rencontres, en fait. C'est des métiers de rencontres et c'est la façon dont vous rencontrez la personne qui est en face de vous, l'événement qui est en train de se passer et comment vous allez pouvoir, effectivement, le raconter, le montrer et en tirer quelque chose. Parce qu'il y a toujours une leçon, en tout cas une leçon personnelle et parfois une leçon pour les autres.
Quelques années plus tard, Renaud Delhomme, vous étiez à ce moment-là à la tête de cette entreprise qui s'appelait Montparnasse Productions et vous avez contribué à la production d'un film qui avait du mal à se financer, qui est devenu un énorme succès. Écoutez ce bref extrait.
Plonger 24 heures dans un monde inconnu pour une aventure à l'échelle du centimètre. Dans cet univers, le sablier du temps lui-même s'accélère. Une heure pour un jour pour une saison pour une vie. Un film magique avec tous les acteurs du microcosmos.
On a reconnu la voix, la très belle voix de Jacques Perrin, c'est le film Microcosmos, un beau souvenir de votre carrière j'imagine.
Alors je vais le voir pour tout à fait autre chose, il était en train de produire le film du centenaire du Festival de Cannes, et je connaissais l'histoire du Microcosmos, je connaissais les gens qui avaient été au départ de ce film et qui n'avaient pas réussi à le financer, Jacques Perrin l'avait repris. Jacques Perrin c'était un homme du pari, du risque, et à un moment donné, après être tombé d'accord sur l'idée de l'édition, ce film sur le Festival de Cannes, je lui dis « Jacques, est-ce que, par hasard, où en êtes-vous sur Microcosmos ?» Il me dit « j'ai un problème de financement, si vous me mettez, je ne sais plus, je crois 500 000 francs à l'époque, cash là, sur la table, vous avez les droits vidéo. » Bon, à l'époque, je lui ai dit « ok ». Quand je suis rentré dans et que j'ai raconté ça à mon équipe, ils ont pensé que j'étais dingue.
Un film sur des insectes.
Oui. L'idée de ce film, c'était « on se couche sur le dos » dans une prairie, et on pense à tout ce qui est en train de... dans le dos. Hein, vous imaginez ça, Isabelle ?
Cette vie minuscule. Vous l'avez vu ce film ? Vous le connaissez ?
C'était splendide. Et alors, on m'a dit que c'était fou, mais en fait, ça a été un immense succès, hein, dû à l'ensemble des personnes qui l'ont fait. Et effectivement, je n'ai eu de cesse de le diffuser et de participer à cette belle aventure. Mais c'est d'abord... l'aventure de Jacques Perrin et des
autres. Oui, mais vous lisiez, c'est des rencontres, et c'est valable dans l'autre sens.
Eux
vous rencontrez,
vous
rencontrez, ils vous rencontrent. Oui. Vous, les rencontres, ce sont des gens dont vous êtes finalement la disciple, qui vous permettent de passer un cap de plus, que vous admirez, ou des gens logistiques qui vous aident ?
Ah non, il y a tout type de rencontres. Il y en a une très très belle dans ma vie, c'est Michel Legrand, pour le Passe-Muraille. Enfin, j'étais sa jeune première, j'ai travaillé 1 an avec lui, c'était vraiment magique. Mais il y en a plein d'autres. Et puis ça continue, c'est ça. En fait, je suis d'accord. Je trouve que la rencontre dans ce métier, c'est ce qui fait tout. C'est ce qui fait l'intérêt de tout. Pour moi, en fait, c'est ce qui me motive le plus. Là, encore récemment...
Aujourd'hui, par exemple.
Oui, mais exactement. En fait, c'est ça qui est le plus excitant.
Dites-moi, Renaud, lorsque vous étiez un jeune journaliste, est-ce que l'idée du, comment dirais-je, l'idée du succès vous titillait ou pas ?
Pas du tout. Je ne crois pas que l'idée du succès me titillait, mais je crois que l'idée de mettre en valeur quelque chose, oui. D'arriver à le raconter, il n'y a rien de plus difficile. On parle beaucoup de l'objectivité des journalistes. C'est un des métiers les moins objectifs qui existent, bien entendu. C'est là où votre point de vue, votre subjectivité, en face d'un événement, va devoir faire attention à la façon dont on va l'aborder. Le fameux point de vue.
Bon. Bien sûr.
Donc, non, je ne pensais pas au succès. Le succès est devenu plus nécessaire quand j'ai lancé Édition Montparnasse,
bien sûr.
Parce que j'avais une équipe, j'ai eu jusqu'à 25 personnes avec moi. Et que là, à ce moment-là, oui, j'ai appris ce que c'était qu'un bilan, il fallait le lire, etc., etc.
Ah, ce n'est pas la même, c'est pas la même vie qu'un artiste où on est un peu égoïste, non, quand on a une chance.
Ah non, pas du tout. Moi, j'ai beaucoup de musiciens qui travaillent avec moi, qui dépendent de moi aussi. Et donc, maintenant, je me sens tout à fait responsable et j'apprends pas mal de choses, notamment les bilans, pas encore complètement, mais beaucoup de choses qui sont moins rigolotes, mais qui font partie aussi de la construction d'un spectacle ou d'un tour de chant ou de la production.
D'accord.
Ça fait vraiment partie du quotidien.
Dans une bulle artistique, vous intéressez
pas
aussi
du tout,
à ça?
Non, parce que j'ai vraiment envie d'être libre. Et être libre, ça a un petit coup qui est être indépendant même au niveau de la production. Voilà.
Parce que parfois, vous dites un petit coup, mais il y a des spectacles où il y a un orchestre symphonique derrière vous.
Oui,
ça, c'est gigantesque. Donc,
oui, mais là, c'est aussi, les orchestres font appel à moi pour construire un programme. Et donc, c'est quand même si eux ont des demandes, j'essaye toujours au maximum d'aller dans la plus grande liberté de construire ce que j'ai vraiment envie de construire.
Renaud Delourme, Renaud, nous passons assez vite, on passe par étapes, des petits bonds de kangourou. Vous n'êtes plus journaliste, vous êtes plus producteur, vous êtes devenu éditeur. Et voici une sorte de référence en la matière, écoutons-le.
J'étais impressionné par le rôle de l'écrivain à l'époque et par l'éditeur. Comment l'éditeur choisissait son auteur, comment ne pas se tromper, qu'est-ce qu'il y avait. Je me disais, mais ça doit être aussi difficile que quand on veut se marier, de ne pas se tromper de femme. Les gens pensent que, bon, vous êtes éditeur, vous êtes assis là comme je le suis, comme on est assis tous les deux, sur ce fauteuil, puis que les manuscrits vous arrivent, qu'on mouille un peu son doigt, ça dépend un peu de son humeur, on va prendre, on ne prend pas, celui-là il est bien, il a une bonne tête. Non, ça se passe pas comme ça.
Pas comme ça.
Et souvent ici, on a eu des succès tout à fait inattendus, comme L'élégance du hérisson ou comme Harry Potter, dont on ne s'attendait pas du tout à ce grand succès.
Alors, c'était Antoine Gallimard, c'est la troisième génération, donc c'est un peu l'autre bout de l'échelle, sans vous faire injure. C'est l'énorme monument de l'édition française et vous êtes lancé courageusement tout seul, petit poucet. Vous n'avez pas les mêmes soucis que lui. Est-ce que néanmoins son discours est proche de ce que vous ressentez ?
Ben, je pense que, par exemple, si on pense à Gallimard, la nouvelle, la NRF, a raté Proust au début. N'ont pas voulu éditer La Recherche du Temps Perdu.
Ah, ils ont refusé.
Oui.
D'accord.
C'est Gide qui faisait partie qui l'a refusé. Et puis Proust est allé voir Grasset et il l'a édité à compte d'auteur en réalité.
Non, c'est pas vrai.
Si. Et puis Gide s'est rendu compte qu'il avait fait une bêtise et il est venu proposer à Proust de reprendre la suite.
Ah oui, magnifique.
Et Proust n'avait qu'une envie, c'était d'être édité par la NRF, donc il a lâché Grasset. C'est aussi un métier d'intérêt et voire de trahison à l'occasion.
Bien sûr. Mais même Antoine Gallimard, qui est débordé évidemment, a envie de lire des manuscrits à tour de bras, il dit que c'est son métier. Est-ce que vous considérez que c'est le vôtre essentiellement, lire ?
Oui, c'est d'abord le mien, c'est d'abord lire, bien entendu. Ensuite, c'est de se dire ça me plaît, ensuite c'est de se dire ça peut marcher, et ensuite c'est de se dire comment je vais le faire connaître dans un milieu, dans un monde où on publie beaucoup plus de textes qu'il n'y aura de lecteurs. Bon, donc c'est un
pari permanent.
C'est un pari permanent, mais c'est un pari moins coûteux que le cinéma, beaucoup moins coûteux, mais c'est quand même un pari d'argent aussi.
Mais vous, Isabelle Georges, qui êtes, et ce n'est pas dépréciateur, qui est un peu hors du circuit normal des chanteurs du top 50, comme on dit, est-ce que cette idée du succès vous titille aussi quand même? Est-ce que vous dites, je vais plutôt faire ça parce que ça peut mieux fonctionner? Vous êtes conforme uniquement à vos impulsions?
Je me conforme beaucoup à mes impulsions et en fait surtout à maintenir le feu intérieur. Et la raison pour laquelle je fais tout ça, la joie, j'ai la boussole sur joie.
Quelle est la raison?
Bah, en réenchanter un peu le monde, c'est vraiment ça mon... Je ne sais pas ce qui me motive, ce qui fait que je me lève le matin. Et donc, c'est maintenir le feu. Le succès, j'ai l'impression... Enfin, pour moi, je vis beaucoup de succès, en fait. À chaque fois qu'un spectacle se passe bien, que les gens sont heureux, debout, qu'on vient me voir après en me disant qu'il faudrait être remboursé par la Sécurité sociale ou j'en sais rien, je me dis que ça, c'est ça, mon succès, c'est vraiment ça. C'est les rencontres, le fait de pouvoir tourner dans le monde entier, le fait de pouvoir... de faire ce que j'aime au quotidien, c'est vraiment le plus grand des succès. Enfin, voilà, c'est...
Ce discours vous convient, Renaud? Vous le reprenez en
bon
terme?
En vous écoutant, je pensais à la passion.
Oui.
N'est-ce pas? Je pense qu'il faut... Ce sont des métiers où on a la passion, en fait. Ce sont des métiers qui permettent, en tout cas, d'être passionné.
Oui.
Et ça, c'est une chose... On pourrait payer presque.
Exactement. Mais non, c'est très précieux. Bon, on entend tellement de gens qui attendent la retraite pour vivre. Enfin, on entend tellement de choses, je trouve, tristes. Et je m'estime extrêmement heureuse, moi.
Privilégiée ?
Privilégiée, oui, complètement, oui.
Renaud aussi ?
Oui.
Être un homme qui a vécu, en gros, de ses passions ?
Oui.
Avec toujours l'envie chevillée au corps d'aller plus loin, à écrire
toujours,
vous-même.
Oui, absolument. Et d'éditer toujours, et de trouver toujours des manuscrits qui me passionnent.
Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin?
Tout ça. Tout ça.
C'est pas mal.
Oui. Alors l'idée d'écrire d'abord, parce que l'énergie du matin est favorable à cela.
Mais l'auteur n'est pas en concurrence chez vous, interne, avec l'éditeur?
Non. Alors par moment, peut-être que j'ai plus envie d'écrire que de lire quelque chose de quelqu'un d'autre. Mais en fait, ça me rattrape quand même, parce que j'ai le sens du devoir aussi, je m'engage, donc voilà.
Est-ce que vous êtes une lectrice, Isabelle Georges?
Oui. Oui.
Quel genre de choses lisez-vous?
J'ai commencé avec par Javel.
Ah oui?
Oui. Et mon papa m'a fait découvrir Stefan Zweig, Hermann Hesse, Jean Raspail, que beaucoup de gens repoussent, mais moi j'ai lu Qui se souvient des hommes, et
bien
c'est
sûr,
un des bouquins
magnifique.
Qui m'a
Les Indiens d'Amérique
absolument bouleversé. Je ne sais pas, en ce moment, je suis en pause. Je lis un livre, je lis un spectacle qui a été joué par Lily Tomlin et écrit par une femme qui s'appelle Jane, j'ai honte, oublié son nom, qui est sur un clochard, et je trouve ça assez fascinant.
Je voudrais vous faire écouter quelque chose qui n'est pas vous, excusez-moi, une infidélité déjà, mais je suis certain, alors soit je vais vous exaspérer, je ne sais pas, j'ai pris un pari, soit vous allez être contente, je n'annonce pas le morceau, on va le reconnaître ensemble et le désannoncer.
Daffodils, green meadows, skies full of stars, raindrops on roses, and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with a moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver-white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad.
Ah, quel bonheur, on retombe en enfance. En français, la mélodie du bonheur, mais The Sound of Music in English. Alors, la comparaison est facile à comprendre. Vous nous évoquez un peu, Julie Christie, même physiquement, votre style. Julie Andrews. On a dû vous le dire souvent, non?
Ouais, de temps en temps, Julie Andrews, et de temps en temps, Shirley MacLaine, mais dans les deux cas, je suis preneuse. Tout à fait preneuse.
Oui. Ce petit côté Mary Poppins chez vous, non, c'est formidable. On oublie souvent de dire que les auteurs s'appellent Rodgers et Hammerstein. On ne pense qu'à Robert Wise, qui est auteur du film, qui a fait aussi West Side Story, beaucoup d'autres film, c'est un film à 5 Oscars, La Mélodie du Bonheur. C'est merveilleux, je me suis fait un petit plaisir en l'écoutant et je suis content que ça vous ait satisfait. Vous le connaissez aussi bien sûr, Renaud Delorme, j'imagine.
Un peu, mais moins bien que mon vis-à-vis, ouais, bah, qui le chantait en même temps.
On aurait pu vous ouvrir le micro.
Oui,
et vous,
oui absolument, vous parce qu'elle le chantait.
J'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais c'est du cinéma, c'est pour ça que je pensais que ça vous intéressait aussi.
Alors moi, ce qui me frappe en écoutant, c'est que dans les années 30, les Américains, s'il y a la dépression, ça se passe mal, ils se mettent à faire des comédies, plein de comédies. C'est pas La Mélodie du Bonheur, mais tout le cinéma du bonheur. Et vous allez avoir Fred Astaire, vous allez avoir des tas de gens comme ça, qui vont, des acteurs comme des réalisateurs, qui vont plaire, en fait. Se dire, il faut emmener les gens,
réenchanter
le monde, ce que vous disiez tout à l'heure.
Donc, la comédie musicale vous intéresse de très, très jeune, très vite. Ouais. Vous avez travaillé avec Michel Legrand, vous l'avez dit, avec Jérôme Savary. Vous avez fait Un Chanton sous la pluie. Et vous avez fait aussi un Titanic, ça j'ignorais complètement. Ouais. Titanic en comédie musicale, comment ça se passe? Nous coulons comment ça se passe?
C'est Maurice Stone, qui est un des plus grands auteurs-compositeurs de comédie musicale encore vivant, qui a écrit, et qui, c'est très loin du film, c'est beaucoup plus proche de l'histoire réelle. Mais donc, c'est un programme avec orchestre et on était 80, enfin il y avait 80 choristes, orchestre symphonique et 20 rôles principaux.
Où l'avez-vous joué ça?
À Liège, à l'Opéra Liège. Mais ça s'est joué dans le monde entier et ça c'est vraiment une expérience extraordinaire. La musique, je vous le recommande, elle est sublime. Il a vraiment écrit quelque chose de somptueux et c'est assez émouvant, enfin évidemment, d'interpréter des gens qui sont partis. Et puis
quel rôle jouiez-vous?
Kate McGowan.
Ah, alors, celle qui survit à tout. C'est ça?
Ben non, ben, j'ai découvert qu'elle est réellement décédée pendant quand le bateau a coulé, mais que évidemment ils l'avaient gardée vivante pour le public américain parce que c'était trop dur. Mais c'est vraiment une œuvre somptueuse. Il écrit paroles et musique, Maurice Stone, c'est assez rare, et il écrit de manière sublime, subtile. Quand il écrit pour une femme, on a l'impression qu'il est une femme. Il est vraiment extraordinaire. Je vous recommande de découvrir Titanic the Musical.
Je pense aux gens avec qui vous avez travaillé. Vous avez évoqué Michel Legrand et Jérôme Savary. Ce sont des grands noms, mais très différents. L'un est un pur musicien, l'autre est un metteur en scène. Oui. Les deux vous ont apporté des choses très différentes, j'imagine. Mais quelle chance.
Oui, quelle chance. Savary, c'était le culot. J'ai fait sa péricole et j'étais en face de lui dans Le Dictateur. Et je commençais et j'étais tétanisé et en même temps j'ai trouvé ça fantastique parce que alors il sortait de son personnage, il s'adressait aux gens dans la salle et à chaque fois il me regardait et genre débrouille-toi pour reprendre le... Et j'ai trouvé ça assez formidable de commencer avec comme ça parce que on est dans l'instant présent. On ne sait jamais ce qui va se passer. Et ça, je trouve ça rafraîchissant.
En vous écoutant, je pense surtout à quelque chose, c'est que ça soit comme lecteur ou que ça soit probablement comme auteur, comme réalisateur, etc. Produire, interpréter des choses différentes, aller de la comédie, du rire, finalement aux larmes, au drame, à la tragédie, même le mélodrame, le fameux mélodrame, autant à l'emporte le vent étant le plus grand mélodrame qui existe, en fait. Probablement. Et c'est vrai en littérature, c'est vrai dans le cinéma. Et moi, je me suis toujours un peu battu, ou en tout cas pris à partie avec mes contemporains, sur l'idée qu'il y avait des genres qui étaient moins bien que d'autres. Je pense que tous les genres sont bons.
Merci.
Et qu'on a le droit de... C'est vrai. Et qu'on a le droit, d'aimer, on a le droit de pleurer, on a le droit de rire, on a le droit d'aller... On a le droit d'aimer des choses populaires.
Est-ce que il y a quelque chose que vous aimez secrètement et que vous n'osez pas avouer, un film de mauvais goût mais que vous adorez quand même? Ça existe?
Non, je ne crois pas. En ce moment, je suis en train de lire la nouvelle traduction. Alors là, ça va faire vraiment un télo.
Allez-y.
De Thomas Mann sur les Brunnenbock.
Ah oui, pour la joie de vivre, reparlons-en.
Oui, oui, c'est pas tout à fait la joie de vivre. Encore qu'il y a un personnage formidable qui est... que je propose à vos auditeurs, c'est Tony, là, Anthony, la fille du consul de Lübeck. Et elle est tellement drôle, elle pousse tellement autour d'elle tout ce qui est trop contraignant. Elle a tellement envie de rire et de séduire, d'ailleurs, qu'elle est au-delà de ce qui est triste ou dramatique dans ce livre. Parce que le drame, c'est le déclin d'une famille.
Vous êtes un lecteur passionné, c'est bien d'en parler comme ça. Vous êtes aussi un éditeur, vous êtes aussi un auteur, donc la chose écrite, c'est vraiment votre vie. La chose chantée, elle est écrite aussi auparavant. Les comédies musicales, c'est formidable. C'est un univers qu'adore Isabelle Georges, que nous réécoutons maintenant. Elle joue régulièrement au bal Blomet et elle y joue, entre autres, ceci. Ne prenez pas un air étonné, s'il vous plaît.
Ladies and gentlemen, Isabelle Georges.
Summer when it sizzles.
I Love Paris, c'est du Cole Porter, interprété par notre invitée Isabelle Georges, qui se produisait à cette occasion-là au Bal Blomet. Vous y êtes régulièrement, je crois.
Tout à fait, à peu près tous les deux mois. La prochaine, c'est le 28 mars.
Et vous êtes souvent en France, vous produisez partout, on l'a dit.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez comme autre date
Alors, au mois de mars, je serai à Bâle, au Stade Casino, avec l'Orchestre de Mulhouse, parce qu'on a fait une série à Noël et on refait une série avec eux au mois de mars. Je vais à Jonzac jouer Love Linda, qui est la vie de Mrs. Cole Porter, qui a été créée aux Chênes Noirs cet été.
D'accord.
Et puis, au mois d'octobre, je serai avec l'Orchestre National des Pays de la Loire pour chanter de la chanson française, pour le coup.
Ah, bien.
Dans le Poinçonneur des Lilas.
Très bien. Et là, c'est vous qui choisissez les titres ou...
Oui. On confectionne des programmes. Il y a évidemment, ils ont des envies, mais on a pas mal de propositions. Je fais ça beaucoup avec Frédéric Steinbrink, qui est aussi chanteur et auteur. On écrit les textes entre les chansons. On construit.
J'ai envie de vous demander à tous les deux, commençons par vous Renaud, je me souviens que vous avez à une époque distribué tous les films, c'était la RKO, c'est ça, qui sont des films années 30 aussi, vous connaissez ça,
Citizen Kane.
Voilà. Donc vous avez rediffusé, redonné l'envie de faire circuler ces films-là, ça a été un de vos grands succès. Est-ce que l'un comme l'autre, vous êtes des gens nostalgiques pour avoir autant de passion pour ce qui s'était fait à l'époque, Renaud?
Moi pas du tout, je ne crois pas être nostalgique. Je crois que le passé est intéressant, qu'il faut en tenir compte, mais je pense qu'on peut faire aujourd'hui et demain encore, non pas mieux, mais aussi bien et peut-être mieux.
Bon, même question pour vous,
Isabelle.
Moi non
plus, je ne suis pas nostalgique, mais j'aime ce qui s'est fait et j'aime bien tirer le petit fil. Je trouve qu'il y a, j'ai pas l'impression qu'il y ait une interruption. J'ai l'impression qu'on est riche de tout ce qu'il y a eu avant et du coup, non, pas nostalgique. J'aime reprendre des chansons, par exemple, qui ont eu un sens à l'époque à laquelle elles ont été créées. Et peut-être qu'elles en ont encore aujourd'hui. Et du coup, changer un arrangement, quelque chose, leur redonner juste quelque chose d'un poil plus contemporain, tout en respectant ce qui a eu lieu avant. Non, j'aime bien tirer le fil, mais pas nostalgique, non.
D'accord.
Non.
Mais je constate quand même que votre répertoire est souvent un peu rétro.
mon répertoire est un peu rétro.
Sans vouloir.
Et pas que. Par exemple, j'ai créé avec l'Orchestre National des Pays, de l'ONDIF d'Île-de-France quelque chose qui s'appelle Ève et Adam. C'est une création, c'est fait par Bruno Fontaine et Florence Sévos au livret. C'est une réadaptation de la Genèse. Et voilà, c'est complètement contemporain. On a aussi fait la première adaptation musicale de 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig.
Comment est-ce qu'on met ça en musique ?
Et ben c'est un compositeur russe qui s'y est collé il y a quelques années, et c'est le trio Zadi qui a 11 prix internationaux qui a interprété ça avec au chant Frédéric Steinbrink et moi. Et en fait, j'aime vraiment faire des choses qui évidemment ont un peu les pieds dans le passé, mais qui sont quand même bien aussi aujourd'hui identifiables, qui sont de leur temps aussi, parce que je suis ici maintenant.
En effet, vous êtes là en direct, on peut vous toucher, vous êtes vraiment là, ce n'est pas un hologramme. Donc pas nostalgie du tout, Renaud, et à chaque instant, avide de découvrir des nouveaux auteurs ?
Oui, avide aussi de retrouver des choses, hein, bien entendu, de retrouver des histoires, de lire.
J'ai une question, pardon, pour l'éditeur. La poésie, est-ce qu'elle a encore sa place dans le monde actuel ?
C'est une question piège.
Non ?
Parce que la poésie, c'est merveilleux, mais... Je ne pense pas que... Enfin, il y a sûrement de la poésie partout, tout le temps.
Oui.
Non, vous vous défilez un peu là. Vous ne répondez pas vraiment à la question.
Oui, j'ai envie de me défiler parce que je ne crois pas comme éditeur que je serais capable d'éditer de la poésie et de rencontrer des lecteurs. Mais ça existe. Il y a un très beau marché tous les ans au mois de juin, à Place Saint-Sulpice, le marché de la poésie où il y a des dizaines de stands, des centaines d'éditeurs et des milliers de lecteurs.
D'accord.
Mais c'est un drôle de job, je dirais.
D'accord.
Poète, oui, c'est pas un métier d'avenir.
C'est peut-être que si.
Moins que trader.
Vous savez, c'est très difficile de savoir ce qui sera le succès de demain.
Heureusement d'ailleurs, non ?
Oui. Peut-être qu'à cause de l'intelligence artificielle, on aura besoin de la poésie, par exemple.
Ce ne sera pas celle de l'IA.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans les métiers artistiques qui sont les vôtres, éditeurs, auteurs, chanteuses, danseuses et puis tous les autres, en dehors du talent indiscutable et de la chance, dont il ne faut pas, mésestimer le rôle, la chance, il y a une chose importante, c'est la persévérance. On écoute brièvement, j'ai oublié son prénom, Génie, Christophe, je crois, Christophe Génie, prix Goncourt 2011 avec l'art français de la guerre, qui part du long chemin pour en arriver là.
Mon premier manuscrit édité, c'était en 2011. Donc, ça m'a pris 20 ans. C'est-à-dire que, et je pense que, bon, moi j'ai fait des études de sciences, j'ai pas fait des études de lettres, je m'intéressais pas beaucoup, donc mon dernier cours de français c'était en première. Mais ce que j'ai fait pendant ces 20 ans, ça a été mon apprentissage de lecteur et mon apprentissage d'écrivain. Et si on m'a refusé tous les manuscrits que j'ai produits pendant cette période-là, eh ben c'est normal, ils avaient bien raison. En fait, j'ai aucun ressentiment là-dessus. Tout le monde me dit « Ouais, est-ce que tu n'essayes pas de les refourguer comme ça ?» Mais bah non, ils ont raison, ils ont fait leur boulot. Ils ont fait un boulot de bonne qualité. J'ai essayé, j'ai appris, j'ai bricolé.
Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Intéressant de l'écouter parler de la persévérance. Et pour vous, éditeur, je vous prends en tant qu'éditeur, c'est une chance merveilleuse d'avoir un auteur qui dit « Je comprends qu'on m'ait refusé, c'était pas si bon que ça ».
Oui, la persévérance, c'est aussi l'insuccès qui vous fait que vous franchissez l'obstacle, en fait, que vous réussissez à franchir et continuer malgré tout.
Dans ces métiers-là, c'est ça, non ? Le courage de persévérer malgré l'échec.
Oui. Il faut que vous prenez des mauvais coups aussi.
Bien sûr.
Alors, voilà.
Vous avez connu cette impression d'avoir échoué parfois, d'avoir réussi
à faire
ce que vous vouliez, vous aussi,
oui.
Isabelle ?
Oui.
Quand j'ai commencé, des moments de doute où on dit « je vais arrêter, c'est trop difficile ».
Mais le doute, il est précieux parce que on renoue avec l'essence, le débarrage. Pourquoi on continue ? Qu'est-ce qui fait qu'on continue ? Mais... Quand j'ai commencé, je faisais des auditions et là, c'était, je côtoyais l'échec au quotidien. On fait une audition, c'est pas vous, vous êtes pas blonde. Il y avait des critères complètement farfelus par moment et parfois des choses réelles. J'étais pas encore prête, peut-être vocalement pour tel personnage ou pas encore suffisamment développée comme comédienne. Ou non, je trouve que effectivement, les échecs nous font grandir, nous donnent des clés aussi. Et nous font vraiment étreiner notre désir.
C'est une bonne leçon de vie, ça.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Mais génie, quand il est en train de dire ça, il a réussi.
Oui, ouais. Il le dit après. Oui.
Il le dit alors qu'il a réussi. Donc, il faut quand même avoir des succès ou le sentiment de la réussite, n'est-ce pas?
Oui.
Pour continuer à chanter, oui. Pour continuer à éditer ou pour continuer
oui.
à...
Oui, on peut imaginer
pour continuer à vivre, tout simplement.
À l'âge de 75 ans, et si rien n'avait jamais marché, il ne l'aurait peut-être pas effectivement dit comme ça. Mais on n'insiste pas assez sur le courage de ces métiers artistiques. Et je vous félicite pour ça et je vous rends hommage.
Moi, je me souviens, juste une petite histoire, je rencontre un jour Frédéric Rossif.
Oui, un grand producteur de cinéma.
Voilà, il venait de produire De Nuremberg à Nuremberg. C'était l'auteur de ce incroyable film de 3 heures sur le
procès.
Sur la Shoah, sur le procès de Nuremberg. Bon. Et ce n'était fait qu'avec des images d'archives. Et il m'a dit, je ne fais ça que parce que j'ai envie qu'on s'en souvienne. Donc il était porté par quelque chose et il réalisait ce qu'il réussissait à réaliser, c'est parce qu'il était porté par quelque chose. Je crois qu'il faut être porté par quelque chose. Il faut être porté par une envie, une passion, ce que je disais tout à l'heure. Et à ce moment-là, les insuccès, vous les franchissez quand même.
Alors ça m'évoque une anecdote, j'avais ça en tête, je ne l'ai pas complètement, mais en gros l'idée est là, je crois que c'est Hemingway et Fitzgerald qui se rencontrent, ils se connaissent, ils sont rivaux, en même temps ils se détestent, ils sont amis, c'est compliqué leur relation, et l'un d'entre eux, je ne sais plus lequel, dit à l'autre, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on se donne tant de mal? C'est tellement dur d'écrire, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et l'autre lui répond, c'est parce qu'on veut qu'il reste de nous plus que si on était un chien ou une automobile. Je trouve ça pas mal, non?
Oui, c'est pas mal, parce que ça, d'habitude on dit l'éternité, et c'est faux, évidemment.
Évidemment.
L'éternité n'est pas là.
Écoutez, un autre auteur, également pris en cours, Pierre Lemaitre, qui parle de comment ne pas travailler son style excessivement.
Si vous essayez d'écrire bien, il y a des chances pour que vous en fassiez trop. Hein? J'aime beaucoup cette phrase de Simenon, on lui disait, Monsieur Simenon, votre style c'est quoi? Il répondait, il pleut. Et moi j'aime beaucoup ça. Alors, dans le type de roman que je fais, encore une fois, c'est pas universel, je suis pas en train de donner une leçon au monde, je suis simplement en train d'essayer de rendre compte de la manière dont je travaille. Et la manière dont je travaille, c'est, j'essaie de faire très bien des choses très simples.
Faire très bien les choses très simples, c'est une bonne définition pour un auteur, vous pensez ça, Renaud Delhomme?
Je ne sais pas. C'est encore une question piège, je trouve.
Quel est votre avis?
Alors, oui, je peux partager cette idée-là, mais je ne sais pas si j'y suis encore arrivé.
Ah, on n'en est pas là, ne ramenez pas tout à vous.
Non. Enfin, j'étais en train, toujours aussi, en vous écoutant, de penser qu'il y a un livre que j'aurais aimé écrire, qui est Narcisse et Goldmoon, d'Hermann Hesse.
J'adore ce livre.
C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous l'avez lu probablement, Marc?
Non, je ne l'ai pas lu, j'avoue.
Ah ben voilà, vous avez de la chance, vous avez quelque chose
à
découvrir.
Hein, c'est vrai.
La formule est belle.
Mais le titre me rebute un peu, je ne sais pas pourquoi, c'est idiot.
Ouais, mais...
Donnez-moi envie de lire, Isabelle Georges, pourquoi il faudrait que je lise ça? Ou les gens qui nous écoutent, pourquoi? Narcisse et Goldmoon, pourquoi?
Je peux vous aider?
Oui,
aidez-moi.
Ce sont deux hommes, il y en a un qui est un maître,
deux amis,
il y en a un qui est un peu son disciple. Et le maître finit par dire au disciple, va voir le monde, va explorer le monde, tu en as besoin. Et c'est Goldmoon, il part explorer le monde, c'est un grand séducteur, c'est un grand explorateur.
Il vit de manière
impressionnante, il a un courage fou. C'est un héros en fait, mais c'est un héros qui a quitté le monastère et qui un jour il revient quand il a compris ce qu'il devait faire. Sculpter une image de la Vierge. Et il revient et Narcisse, qui est le maître du monastère, le maître de l'ordre, lui dit, tu es mon maître, en fait. Tu as bien fait d'aller voir le monde, j'aurais dû y aller, je n'ai pas pu, je ne l'ai pas fait. Et je suis content que tu sois allé voir le monde, et il fait une sculpture magnifique. Et c'est une leçon extraordinaire de vie.
Bon, j'essaierai alors.
Ah oui, ça, franchement, je pense que vous aimerez beaucoup, Marc.
Très bien. D'accord, je vous fais confiance. Dites-moi, Isabelle, on a beaucoup écouté des choses du répertoire varié, le Poissonneur des Lilas, la comédie musicale, Marilyn, toutes sortes de choses, l'orchestre symphonique, enfin bref, le big band. Mais vous composez aussi vous-même, vous écrivez aussi des chansons vous-même. Ouais. Donc est-ce que vous êtes confronté au problème d'inspiration des auteurs, ou ça vous vient très simplement ?
Ça dépend des chansons. ça dépend. Parfois j'ai les mots et la musique en même temps, parfois je n'ai que les mots. Et dans ces cas-là, j'ai plein d'amis qui composent magnifiquement pour m'aider. Mais après, ça dépend. C'est jamais la même chose. Là, en ce moment, j'écris 10 chansons avec un guitariste et ça se fait très harmonieusement. Et puis, j'ai d'autres chansons à écrire et c'est plus compliqué. Il n'y a pas de règle pour
pas
moi.
Pas de règle. Non. Est-ce que ça a été facile d'écrire Un amour qui se vit ?
Alors là, oui. Parce que c'est une histoire personnelle et c'est quelque chose que je devais à quelqu'un qui n'est plus là. C'est une histoire d'amour incomplète. Et voilà.
Bien, écoutons-la si vous êtes d'accord. Un amour qui se vit, Isabelle Georges, auteur, compositeur, interprète.
Avec toi, nos échanges sur la pointe des pieds, nos dimanches aérés au milieu des objets usagés. J'aimais tes mots, ta soif d'aller plus haut. Nous cherchions le plus beau des voyages pour aller d'âge en âge. Nous nous moquions de l'atterrissage. Je rêve d'un amour qui se dit, qui se chante, qui s'écrit. Un amour qui se vit. Se chante, qui se crie, un amour qui se vit. J'aimais tes mains, je te sentais câlin, mais d'homme à homme, qu'aurais-je pu te dire? J'aurais cru nous trahir, je n'ai jamais pensé te séduire. Quand j'ai dit viens, tu étais dans le train, entre nous les arbres sont tombés, nous avions trop tardé. Mm-hmm.
Il est incroyable ce saxophoniste.
Un amour qui se vit, c'est interprété par Isabelle Georges, et qui, c'est assez très amusant, c'est touchant, parce qu'on vous entend dire, en écoutant votre propre chanson, le saxophoniste est vraiment incroyable.
Oui, il s'appelle Adrien Sanchez, avec son frère, ils ont un groupe qui s'appelle Flash Pig, c'est un des groupes de jazz les plus connus et les plus extraordinaires actuellement sur la scène française. Ils sont fabuleux tous les deux, le pianiste c'est Maxime, et Adrien, qui joue du saxophone de manière...
Vous savez ce que m'évoque, ce que je viens d'entendre là? Ça m'évoque beaucoup l'univers du dernier album, dernier, c'est l'année qu'il est fait, mais c'est d'Henri Salvador, avec, vous savez, Le Jardin d'hiver.
Jardin d'hiver, c'est chouette.
Ça ressemble à ça, non? C'est cet univers-là, je pense. Vous avez dû aimer cet album.
J'adore cet album, oui. Il est très, très
écrit entre autres par Biolay, entre autres.
Oui, et Keren Anne, je crois.
Keren Anne, c'est ça. Et Jardin d'hiver, c'était formidable. C'était vraiment cet univers cosy, doux, avec un vrai contenu quand même, des paroles qu'on écoute, évidemment. C'est pas du easy listening, mais c'est agréable, c'est simple, c'est très plaisant à entendre. Donc ça ressemble à ça, je trouve.
Merci.
Non, je vous en prie. Je voudrais vous demander une chose. Est-ce que vous vous intéressez aussi à la musique classique?
Ah oui. J'ai une maman qui faisait du chant sacré. Donc, alors au départ, je faisais de la réticence. J'avais pas du tout envie. Je trouvais que sa voix, quand j'étais petite, sa voix allait vocaliser tous les jours. C'était trop fort pour moi. Avec ma sœur, on faisait le sabbat. Mais maintenant, je réalise la chance que j'ai eue de naître dans une famille où la musique était là tout le temps, que ce soit les vocalistes de ma maman, les musiques de scène de ma grand-mère, la musique américaine amenée par mon père des États-Unis, et puis lui, son amour de la littérature et du jazz. Je trouve que j'ai eu un terreau quand même assez exceptionnel.
J'imagine.
Voilà.
Quel était votre compositeur préféré que vous aimeriez? Vous en écoutez parfois encore maintenant?
J'adore Debussy.
Ah oui.
Ça dépend en fait. Parfois pour écrire, j'aime beaucoup. J'aime Bach. Je peux pas vous dire, ça dépend des moments. C'est pas toujours la même chose.
Isabelle Georges est notre invitée. Elle est chanteuse, danseuse de claquettes. Vous faites ça à merveille, j'ai vu sur des scènes. Et elle intéresse aussi à Bach et à Debussy. Heureusement, la vie est éclectique. Renaud Delhomme, vous êtes éditeur et auteur. Est-ce que vous vivez dans une atmosphère musicale? Vous aimez lire avec de la musique derrière vous? C'est impossible.
Oui, j'ai de la musique en fait quand j'écris.
Ah, quand j'écris, vous écrivez
oui,
aussi.
J'ai une playlist. Et je la renouvelle de temps en temps, mais pas tant que ça. Je trouve pas assez d'ailleurs.
Quel genre de choses?
Je sais pas, des tas de choses. Des auteurs modernes, des compositeurs modernes. Un peu de musique classique, mais peu.
Vous écoutez de la musique tous les jours?
Oui. Mais j'ai le regret de ne pas avoir eu, comme vous, une famille où la musique était présente. La littérature, oui, mais pas la musique. La littérature, la politique, oui. Ça, il y avait du débat. Il y avait du débat culturel, mais pas de musique. Et je le regrette. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas transmis non plus à mes enfants. Et je le regrette aussi.
Il n'y a pas de musicien.
Il est pas trop tard pour chanter. Elle était chanteuse professionnelle, votre mère?
Oui, oui, oui. Ah, oui. Mais
l'environnement compte énormément.
Bien sûr. Après, c'est marrant parce que, enfin, moi, au départ, vraiment, je détestais la musique classique et puis surtout le chant sacré, Gounod. Je faisais vraiment des. Oui, c'était pas mon truc. Et d'ailleurs, je me dis, quand je regarde mon parcours, c'est assez rigolo parce que ma voix, c'est un mélange. Il y a des gens de la musique pop qui vont dire que je suis trop classique, les classiques qui vont dire que je le suis pas assez. Et quelque part, j'adore cette espèce de truc inclassable qui est un mélange de tout ce que j'ai pu absorber quand j'étais plus petite, et puis au fur et à mesure de ma vie aussi fait mien en fait.
Je vous entends parler de Gounod. Est-ce que c'est une erreur, dans ce cas pardonnez-moi, ou bien est-ce que l'air des bijoux que chante la Castafiore tout le temps, c'est du Gounod?
Oui,
et j'aimerais
vous
bien...
l'avez là?
Ben non, je ne l'ai pas. Mais j'aurais aimé.
On l'attendait un peu. Avec Marc, on y a un peu de suspense. On espère la voir.
Vous savez à quoi ça ressemble? Vous connaissez l'air ou pas?
Non, je ne me souviens plus exactement. Si ce n'est les paroles.
Ah, je ris
de me voir si belle en ce miroir.
En ce miroir, mais vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Non, dommage, j'aurais fallu le préparer. Ce n'était pas prévu. Est-ce que. Une chose intéressante, on va écouter tout à l'heure un compositeur baroque pendant quelques instants, féminin. Il y a peu de femmes dans la composition musicale. Il y a des femmes écrivains, des femmes chanteuses. Il y en a assez peu. On leur a peut-être ménagé moins de place, mais c'est quand même un peu frappant, non?
Ça dépend. Enfin, j'ai l'impression que d'ailleurs c'est en train de changer, qu'on redécouvre des compositrices qui ont été un peu oubliées. Je sais pas, je saurais pas dire. J'ai pas l'impression de. Je pense qu'il y a eu vraiment une époque où les femmes ont été oubliées, mais je pense que ce n'est plus le cas. Il y a pas mal de compositeurs et de compositrices, je veux dire, actuellement, il y a beaucoup de femmes qui composent.
Oui, actuellement, oui.
Oui.
Et vous, les manuscrits que vous recevez, vous n'en recevez pas évidemment autant qu'Antoine Gallimard, quand on les critère, bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression que l'écriture est une activité totalement mixte ou il y a plus d'hommes?
Il y a de plus en plus de femmes.
De plus en plus de femmes qui écrivent.
Oui, beaucoup.
Est-ce que la sensibilité...
Et beaucoup d'autobiographies.
Alors j'enfonce une porte ouverte, pardonnez-moi, ne voyez aucun jugement, rien. Ouais. Est-ce que vous reconnaissez un livre, est-ce que vous savez, en lisant un livre, si l'auteur est une femme ou un homme? Ça n'a aucun sens, cette question.
Pour moi, ça a peu de sens.
D'accord, mais, très possible.
Voilà, mais je pense que ça doit être possible, en fait.
Probablement, il y a une littérature...
Il y a une sensibilité féminine qui probablement se reconnaît quand même dans un texte.
Mais ça ne joue aucun rôle pour vous. Voilà, l'auteur, le texte vous plaît, point final.
Oui, aucun.
D'où qu'il vienne, quel que soit l'auteur.
Oui.
Vous connaissez bien sûr l'extraordinaire aventure de Romain Gary, qui fait publier sous un autre nom son livre en l'envoyant de l'Amérique du Sud, et ça devient Émile Ajar. N'est-ce pas une des plus belles preuves de l'erreur des trompettes de la renommée? C'est-à-dire, s'il n'avait pas, on s'est trompé, il les a dupés. C'est une belle histoire, non?
Oui, il y a un certain nombre de textes comme ça qui ont été écartés par les éditeurs et qui sont ressortis plus tard avec un grand succès. Donc, l'éditeur est en face d'un texte qu'il rejette et qui peut être un truc formidable. Mais ça, c'est normal.
C'est
normal, le tamis. C'est normal qu'on puisse se tromper à tous les niveaux.
Comment décider?
Ah ben, je ne sais pas.
Parce qu'il y a deux critères. Il y a le critère, moi lecteur, moi, auditeur Renaud Delhomme, ça me plaît, mais, ou ça ne me plaît pas, mais un public peut l'aimer. Est-ce qu'on arrive à sortir de soi-même pour dire, je vais quand même éditer ce livre-là, même si moi, ça ne me plaît pas tant que ça. C'est pas possible, cette démarche-là? Il faut que ça vous plaise?
Non, je pense qu'il faut, en tout cas, selon mon regard, selon mon objectif, il faut que je sente quelque chose dont je me dis, ça vaut le coup de l'éditer.
Bien sûr, à tout point de vue.
À tout point de vue.
Le coup COUP ou COU, accent circonflexe T?
Non, COUP.
Parce que si on ne peut pas défendre quelque chose en quel on ne croit pas du tout, je ne sais pas, non? Vous pouvez défendre quelque chose qui vous...
Non, si c'est quelque chose qui ne me plaît pas, je ne sais pas ce que je vais en faire. C'est
alors ça nous plaît. Aline, qui était avec nous, qui réalise l'émission, a trouvé, magicienne, l'air des bijoux, de la Castafiore. C'est après, je vais enfin l'entendre après tant d'années. À quoi cela ressemble-t-il vraiment?
Oh.
Voilà, c'était un peu imprévu. C'était Anna Edry qui interprète, ce n'est pas la Castafiore, qui interprète l'air des bijoux qui jalonne tous les albums de Tintin. Et c'est vrai, en fin de compte, on connaissait l'air. J'aurais dû y penser tout seul. Renaud Delorme est avec nous, éditeur, auteur. Il voudrait demander à Isabelle Georges, chanteuse, oui, l'autre invité, quelque chose d'important.
Est-ce que vous aimeriez chanter ça, les bijoux? Oui. Est-ce que vous pourriez?
Oui, je pourrais. Et j'aimerais, mais je le ferais... Oui, j'aimerais presque un petit peu comique. Enfin, je ne sais pas. Oui, j'aimerais. C'est
vous aviez une façon presque de l'interpréter, là, avec un petit côté comique.
C'est ça.
Oui, c'est vrai.
Mais oui, il est très rigolo, cet air. Il est très rigolo.
Mais il est tellement connoté par Tintin qu'on ne sait plus ce qu'on en pense, en réalité. On ne sait pas comment on aurait à le juger autrement. Mais oui, vous avez la capacité, la tessiture pour faire ce genre de choses.
Oh, peut-être qu'il faudrait le descendre un peu, je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé sur mon piano, mais non, par contre, moi je continue à prendre des cours de chant et je travaille avec quelqu'un qui forme les gens pour Bastille. Je travaille en fait ma voix de manière classique, parce que c'est la meilleure manière d'aller explorer un peu toutes les facettes. Après, c'est une question de style, mais voilà... C'est tout à fait faisable et si je le faisais, je le ferais, j'espère, de manière un peu rigolote.
D'ailleurs, vous y êtes venue toute seule, j'allais vous poser cette question-là. Au fond, comment travaillez-vous? C'est comme un muscle, comme un sportif? Vous travaillez tous les jours votre voix? Comment ça fonctionne?
Alors, j'ai eu la chance, c'est une rencontre. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Jean Salamero quand j'avais 20 ans. Parce qu'en fait, j'ai toujours chanté, mais j'avais jamais pris de cours de chant. Et puis, je me suis retrouvée à faire un premier rôle de comédie musicale très exigeant. C'est 8 spectacles par semaine. Et là, je me suis dit, mais si j'ai pas une technique, je ne sais pas comment je vais faire. Et j'ai rencontré cet homme qui a été avec Brel dans L'Homme de la Mancha. Enfin, c'était un monsieur assez extraordinaire. Et qui m'a fait découvrir ma voix et qui m'a fait prendre conscience que c'est quelque chose de précieux. On s'en sert tous les jours, on ne s'en rend même pas compte. Et lui, il avait quelque chose d'assez magnifique. Il disait que tout le monde chante. Quand on est petit, tout le monde chante. Et que petit à petit, on désapprend à cause des bobos, de la vie qui nous cabosse un peu. Ou alors de ce qu'on peut entendre des autres. Tu chantes faux, tais-toi. Et donc... Je pensais qu'il exagérait, mais en fait, une fois, je lui ai amené un de mes amis comédiens qui chantait vraiment faux, et il a réussi à le faire chanter juste en quelques cours, en fait. Mais c'était quelqu'un d'assez exceptionnel.
Pendant que Marc est en train de tousser, est-ce qu'on pourrait dire, jusqu'à 6-7 ans, un enfant, il a un imaginaire extraordinaire? On les voit, ils sont en train de raconter leur histoire. Est-ce que peut-être qu'ils peuvent chanter à ce moment-là?
Tout à fait.
Sans avoir aucune... ne rien avoir appris.
Pas d'inhibition en plus.
Oui,
aucune inhibition.
Oui,
mais c'est... Et imaginer.
C'est beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qu'on fait jusqu'à un certain âge de manière spontanée.
Je crois que c'est 5, 6, 7 ans. Hein, vous voyez un enfant dans un coin qui parle, qui est en train de se raconter une histoire. Il ne faut surtout pas l'interrompre, il faut le laisser vivre dans son monde. Et parfois, on l'interrompt, c'est dommage.
C'est vrai.
Et vous, Renaud, comment travaillez-vous votre capacité de lecteur? En lisant tous les jours, j'imagine.
Je lis tous les jours, oui.
Plusieurs heures?
Plusieurs heures. Ah oui, je lis beaucoup.
Par plaisir ou par goût professionnel de
non,
nécessité?
Par plaisir, pas par nécessité. Vous c'est jamais une nécessité pour moi de lire.
Vous achetez des livres?
Oui, tout le temps. Ah oui, j'achète des livres.
Est-ce que vous lisez, comme certains le font, je lis par exemple, je ne sais pas moi, tout Balzac pendant 6 mois, puis après je passe à autre chose, ou bien vous vous laissez guider par l'impulsion du moment?
Non, je suis un impulsif, je me laisse guider par l'impulsion du moment.
Parfait.
Oui, par l'envie, j'ai tout d'un coup de lire quelque chose.
Allez-y, non, Isabelle.
Je viens de découvrir, vous connaissez sans doute François Chêne.
Oui.
Et j'ai découvert un bouquin qui s'appelle « Œil ouvert, cœur battant ». Et j'adore ce titre, et je vous le recommande. C'est,
rien que pour le titre.
Voilà, rien que le titre. Je l'ai sur mon bureau,
Mais c'est un poète.
Ah oui, vraiment,
Voilà un homme qui écrit de la prose, mais qui en fait est un poète.
Oui.
Et qui n'est pas né dans la langue française en plus, donc d'autant plus de mérite, il est chinois.
Oui.
Ouais. Mais c'est beaucoup d'auteurs français. André Imakine, qui est un des meilleurs auteurs français, il est russe. Comment arrive-t-on à un niveau de compétence?
Le testament, oui, puis vous connaissez l'histoire du testament
bien sûr,
français.
Bien sûr.
Hein, il le présente en français et on ne le croit pas. Alors, je crois que c'est chez Gallimard. Hein. C'est peut-être Père Antoine Gallimard qui l'avait lu. Et il a dû le réécrire en russe parce qu'on ne croyait pas à sa version française,
c'est ça,
à cette histoire écrite en français. Donc il l'a réécrite en russe. Et alors, écrite en russe, on l'a cru. Et il avait déjà la version française.
Et il avait en réalité,
voilà, sa grand-mère était d'origine française et lui avait appris le français.
Je vous propose d'écouter maintenant un très bref morceau qui fait une minute à peine. C'est de la composition baroque, une jeune violoniste assez remarquable qui s'appelle Sophie de Bardonnèche, qui remet au goût du jour cette musique qu'on n'entend pas souvent, en tout cas pas ces compositeurs-là. Ça s'appelle Le Cabriolet, l'auteur c'est, la compositeur c'est Papavoine, pardon, ça dure une minute. Voilà, c'est une virtuose, Sophie de Bardonnèche. Elle devait être avec nous. Un problème un petit peu imprévu l'empêche de participer à l'émission. Ça ne nous empêche pas, en revanche, d'admirer son talent et de savoir le reconnaître.
On est emporté.
Oui. Je trouve aussi. Oui. C'est un côté un peu Vivaldi. Hein, mais
on respire.
Voilà, c'est vrai. C'est presque trop court. On aurait aimé entendre plus et en parler plus, mais bon, ça n'est pas possible aujourd'hui, c'est comme ça. L'inspiration, voilà un grand problème quand on est un auteur, quand on est un chanteur. L'inspiration, il faut la traquer ou est-ce qu'elle est là toujours à portée de main?
Alors, je dirais les deux. Enfin, elle est à portée de main. Moi, j'adore, je fais pas de vélo, je marche, et, parce que j'adore regarder. Et il y a tout le temps quelque chose qui se passe qui est source d'inspiration. Après, elle peut venir des livres, des films qu'on voit, des gens qu'on rencontre. Moi, je dirais qu'elle est tout le temps là. Mais après, on n'est pas toujours à même de la voir. Ça, c'est encore autre chose. Personnellement, en tout cas, il y a des moments où on est plus ou moins réceptif à tout ce qui peut arriver vers nous. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne pour l'instant.
Je me souviens que Hemingway, pardonnez-moi, je parle souvent de lui, c'est un peu mon idole, disait « Essaye de faire une phrase, une seule phrase qui soit parfaitement juste. C'est ton but, une phrase parfaite. » C'est ambitieux.
Est-ce que vous en avez une, Marc, à nous citer de lui?
Une phrase d'Hemingway parfaite?
Oui, qui vous plaît.
Je ne veux pas être un peu redondant, mais c'est vrai que la phrase du début, c'est-à-dire près du Kilimanjaro, un jour, dans les neiges éternelles, on a trouvé la carcasse gelée d'un léopard. Nul n'a jamais su ce que le léopard allait faire à cette altitude.
C'est pas mal.
Ah bah, c'est merveilleux, ça me fait rêver depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait déjà un certain temps.
C'est pas... ouais,
et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, chers amis, les neiges du Kilimanjaro. Écoutons une auteure, j'aime pas dire autrice, j'ai horreur de cette fémination des mots, bref, c'est mon droit. Amélie Nothomb, qui parle de manière assez drôle des gens qui veulent écrire sans avoir jamais lu.
Aucun sens d'être, de vouloir être écrivain, de vouloir raconter des histoires, si on n'en a pas énormément lu soi-même. Voilà, c'est l'importance de lire des guides de voyage quand on voyage, et même c'est l'importance d'avoir voyagé pour faire d'autres voyages. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent « Moi, je n'aime pas lire, j'aime écrire. » Pour moi, ça n'a pas plus de sens que si on disait « Moi, j'aime cuisiner et j'aime pas manger. »
Ça a été un petit peu coupé à la fin, le son est chinté. Elle dit, ça n'a pas plus de sens que ceux qui disent « J'aime cuisiner, mais je n'aime pas manger. » Ça vous convient, cette définition,
Oui, ça me convient. Je ne sais pas s'il y a probablement de très bons auteurs qui ont peu lu. Donc, je pense... En tout cas, il y a des auteurs modernes d'aujourd'hui, des auteurs contemporains qui ont probablement peu lu et qui écrivent et qui ont du succès. Donc, je ne les connais pas, je ne sais pas, je suppose ça. Mais je suppose que si on a beaucoup lu, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'on est un auteur et qu'on est un bon auteur.
Voilà.
Ça veut dire simplement qu'on a une culture livresque, en tout cas, sur le monde.
Mais la question que je me pose, moi, et plus pour un auteur que pour un chanteur, c'est est-ce que même le fait d'être un très grand lecteur, et donc un admirateur de certains écrivains, n'est pas un frein? Est-ce qu'on ne va pas se dire, mais qu'est-ce que je vais faire d'aussi bien que ces gens-là? Je n'ai pas le courage.
Est-ce qu'on a la trouille?
Oui,
probablement. Mais c'est à Hemingway qu'il fallait poser la question.
Ernest n'est
en
pas
tout
un...
cas, Amélie Nothomb.
Non, mais en tout cas, Hemingway ne répond pas, mais ça peut être un frein, non. Mais vous qui lisez par goût et par profession tout le temps, depuis des années, Renaud Delourme, éditeur, ça ne vous empêche pas d'essayer d'écrire quand même. Vous ne vous sentez pas, par rapport à ces géants, en état d'infériorité?
Non, parce que si je commence à écrire, l'histoire me prend, alors j'oublie le reste.
D'accord.
Heureusement.
Une nécessité.
Oui, absolument.
vous relisez, parce que c'était formidable de voir Isabelle Georges s'écouter avec beaucoup d'attention et une oreille critique. Est-ce que vous, vous relisez tout le temps et vous remettez le...
Je relis. Je relis et je remets, oui.
On n'est jamais satisfait, non ?
Bah, oui, peut-être. Enfin, si, il faut être satisfait de temps en temps. D'abord, il faut être satisfait de ce qu'on fait. Ensuite, il faut être satisfait de ce qu'on a écrit, sinon c'est pas la peine de continuer à écrire.
Ou de ce qu'on ne fait pas. Moi, je n'ai jamais écrit un mauvais livre, madame. C'est une idée aussi.
Ouais,
c'est un
mais l'aventure, oui, je disais tout à l'heure, l'aventure est un risque. Moi, je me souviens d'une petite anecdote quand j'étais jeune journaliste. Il y avait la Transatlantique en solitaire qui s'annonçait. Il y a le rédacteur en chef qui me demande de choisir un des navigateurs qui va partir faire la Transatlantique en solitaire. Et le favori était déjà pris par la chaîne concurrente qui était la première chaîne. Uh-huh. J'étais à la deuxième. Et donc je cherche, et puis je trouve un outsider qui venait de la campagne. Il s'appelait Alain Colas.
Ah, mais bien
et
sûr.
Je vais voir Alain Colas, bien et sûr. Je lui propose donc que ça soit notre poulain, hein, le poulain de la chaîne. Très bien, pour le journal télévisé. Il me dit ok, alors on part de Saint-Malo à Plymouth ensemble. Je suis avec mon opérateur, mon preneur de son. Les preneurs de son, ils ont souvent des problèmes d'oreille. Il avait un mal de mer épouvantable, pas de son prix, mais enfin, ça fait rien. On fait une interview avant le départ pour la Transat, et je lui donne des pellicules, puisque c'est la Transat en solitaire.
Bien sûr, bien sûr.
Bon, et qu'à l'époque, en plus, il n'y avait pas grand-chose, donc on ne filmait pas en continu, en transmission par satellite des images, donc il part. Et puis je vais à l'arrivée à Newport, aux États-Unis. Et là, il est le premier, on sait qu'il arrive,
bien.
Et il me tend un petit paquet, c'était les bobines qu'on lui avait données, et la caméra, et il me dit, tu vas voir, c'est extraordinaire, et j'ai enregistré quelque chose. Bon. Et on développe, je reprends le premier avion pour Paris, on développe, et à 10 jours, il va gagner en 20 jours, à 10 jours, il dépasse le club méditerranéen de Jean-Yves Terlin, et il lui dit, I suppose. Et l'autre lui répond, I presume, il se dépasse. Et on voit le film, on les voit tous les deux, l'un à côté de l'autre, en train de se faire le signe, hein, le fameux signe de Livingstone.
Oui, bien sûr.
Bon, en Afrique, quand ils se croisent,
oui,
et à 10 jours, au milieu de l'Atlantique, ils le croisent, ils le dépassent. Et c'est des souvenirs extraordinaires.
J'imagine.
Donc, voilà.
Disparu en mer, hein, à la collab du Manureva, beaucoup plus tard. Oui.
Il avait acheté à. En fait, c'était sur le trimaran qu'il avait acheté à.
Tabarly. Vous savez qu'il avait envoyé un ultime message, à l'époque c'était des fax, il a disparu, on n'a jamais retrouvé ce bateau, on ne sait pas ce qui est arrivé, le Manureva, d'où la chanson de Gainsbourg, enfin, pour Chamfort, Alain Chamfort. Et ça c'est vrai, ce n'est pas une légende, le dernier fax qu'envoie Alain Colas, c'est incroyablement poétique et horrible, c'est « il n'y a plus de ciel ». Je pense que c'est au sens physique, il ne voit plus les éléments, la mer, mais ça peut être pris aussi comme chose un peu métaphysique, c'est son dernier message humain, il n'y a plus de ciel. Ça c'est impressionnant.
Le bateau s'appelait Penduic 4. C'était le quatrième Penduic de Tabarly, et il l'avait rebaptisé Manureva.
Oui.
Et effectivement.
Belle chanson. Alors, je voudrais que vous parliez, Isabelle Georges, de tout à fait autre chose, de votre goût très particulier et assez rare pour une langue, ne me regardez pas avec stupeur, pour une langue un peu pratiquée qui est le yiddish. Ouais. Alors, pourquoi ?
Pour là, plein de raisons. Le yiddish est une langue qui est de moins en moins parlée. Pour la raison que tout le monde connaît. Et il me semble que chaque mot de yiddish est une personne. Et donc, il me semble essentiel de continuer à chanter en yiddish. Ça, c'est vraiment la raison première. Après, j'ai fait des rencontres absolument extraordinaires, notamment une dame, parce que j'avais entendu un petit peu de yiddish petite, mais... c'était de la musique et je savais pas ce que c'était. Et en fait, à un moment, j'ai voulu apprendre et j'ai rencontré une fille qui s'appelle Dorothée Viennet, qui est une grande passeuse de yiddish qui est décédée il y a quelques années et qui est devenue une amie. Et j'avais comme but de pouvoir lire Bashevis Singer en yiddish.
Bravo.
parce qu'en fait, j'adorais l'auteur, je trouvais ça formidable. J'avais lu en anglais aussi, mais j'avais envie de savoir ce que c'était à l'origine, en fait. Et j'ai pas été déçue parce que c'est un peu édulcoré en anglais. Ça l'est encore beaucoup plus en français. Enfin, voilà. Et du coup, avec Dorothée, j'ai commencé à, à plonger dans Bachévis.
Et le Yiddish a joué aussi un rôle dans les premières comédies musicales américaines, Broadway.
90% du songbook américain, c'est la deuxième génération immigrants juifs de l'Est qui sont arrivés. Les Gershwin, qui s'appelaient Gershowitz, Irving Berlin, Rodgers and
Hammerstein. Oui, mais c'est leurs origines. Mais ce qu'ils ont créé ne ressemble pas au Yiddish.
Mais c'est très, très inspiré. Ce qui est absolument génial, c'est pourquoi toutes les comédies musicales se terminent bien, écrites par ces deuxième génération-là. Parce que les parents se sont extrêmement sacrifiés pour les enfants, en fait. Ils sont arrivés aux États-Unis en se disant les routes pavées d'or, youpi. Et en fait, pas du tout. Ils se sont tués à la tâche dans les sweatshops pour que leurs enfants aient une vraie chance. Et les enfants, quand ils sont devenus créateurs, quand ils ont commencé à écrire des chansons et des spectacles, tous les spectacles se terminaient bien comme une sorte de revanche ou de dire pour leurs parents, vous inquiétez pas, ça se termine bien. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Il y a un bouquin génial qui s'appelle Funny Doesn't Sound Jewish et sur le songbook américain, et on s'aperçoit que par exemple, Supercalifragilisticexpialidocious,
Mary Poppins,
voilà, c'est un traditionnel yiddish. En fait, il y a plein d'inspirations.
Mais vous le parlez un petit peu, vous sauriez dire des choses en yiddish?
Un petit peu, non, pas trop.
Par exemple, Marc, vous êtes formidable en yiddish. Non, c'est pas super ça.
On peut toujours tenter. En fait, je peux le lire. Le parler, c'est vraiment autre chose. Moi, je ne l'ai jamais parlé. Il n'y a personne avec qui le parler.
Alors, en revanche, vous le chantez. Et nous avons choisi ensemble d'écouter cette version un peu étonnante de Ne me quitte pas. Alors, je vais mal le prononcer. C'est Lass mich nicht allein.
Lass mich nicht allein.
Lass mich nicht allein. C'est ne riez pas. C'est Ne me quitte pas en yiddish. D'ailleurs, il n'y a pas quoi rire en écoutant cette chanson, effectivement, mais c'est assez réussi. C'est Isabelle Georges.
Los mich nicht allein, man kann sich vereinen, vergessen die nehmen das versteckte Gewehn, vergessen die Zeit. Wenn Wörter wie Pfeilen Flaggen zählen, was doch nicht werden zählt. Vergessen die Schuhen, wenn's Weges reißen dick, Flaggen vergrohen, das Bindeleglick. Los mich nicht allein, los mich nicht allein, los mich nicht allein, los mich nicht allein. Ich will dir schenken Perl von Regen, gebrängt von der Gegend, wo's kein Regen ist da. Ich will auch reben und plogen, bis nur mein Teut zu verzieren dein Heut mit Gold und Barliant. Ich will aufstellen ein Land, wo nur herrschen wird Liebe, noch kenn ich Liebe, nur dein Wort, nur dein Hand. Los mich nicht allein, los mich nicht allein, los mich nicht allein, los mich nicht allein, los mich nicht allein. Ich will dich versinnen, unsinnige Rede, was du weißt, versteh. Ich will dir erzählen von die geliebten zwei, was noch ein Zettel haben sie geliebt aufs Nei. Ich will von der Mailer erzählen, was hat er so noch dich gebängt, als er ist gestorben, mit Erwarten gekannt. Los mich nicht allein, los mich nicht allein, los mich nicht allein, los mich nicht allein. Du weißt, es ist voran, soll euch flammen mit Gewalt, der alte Vulkan, was man gemeint, er ist schon kalt. Und euch hab geehrt, als er verbrennt der Erd, kann bessere Frucht geben, wie ein Frühling Regen. Und wenn's fällt im Heften sie doch zusammen.
nicht allein. Lass mich nicht allein. Lass mich nicht allein. Lass mich nicht allein. Lass mich nicht allein. Ich will schon gar nicht sagen. Ich will nicht mehr glauben. Noch in der Winkel stehen. Und auf dir gucken, wie du tanzt und lachst und von der Seite blicken, wie du Freiler machst. Los, ihr soll noch werden, der Schatten von dein Hand. Der Schatten von dein Hand. Der Schatten von deiner Hand. Los mich nicht allein, los mich nicht allein. Los mich nicht allein. Lass mich nicht allein.
C'est Ne me quitte pas, Jack Brel en yiddish, interprété par Isabelle Georges. C'est assez poignant. Je pense que même si on ne connaissait pas le texte, on est quand même pas mal saisi, non ?
C'est drôle parce que je pensais poignant.
Oui, c'est absolument le mot. Ouais.
Oui, et moi j'aime beaucoup la chanson de Brel. Et une question, est-ce que la langue est aussi importante que cela pour traduire ? Bon, parce que Bachevisinger, on le sait, c'est la Pologne, c'est New York, puis c'est l'Argentine, hein, ces trois grands terrains d'écriture et de récits. Mais le yiddish, ça remonte beaucoup plus loin.
Oui.
Quand on y pense, on a une mémoire qui permet d'imaginer le pogrom, enfin, les ghettos, enfin, tout cela. Il y a une musique, le klezmer, c'est très proche. Hein,
mais quelle est votre question, Renaud ?
Ma question, c'est la langue. Est-ce qu'il faut cette langue-là pour être proche de Brel ?
Ah ! Bah, en tout cas, ça permet de l'être, mais je ne sais pas, enfin, je ne pourrais pas à votre place. Mais...
Non, justement.
C'est Est-ce qu'il faut cette langue-là pour être proche de Brel ? Bah, en fait, j'adore la chanson de Brel, enfin, comme beaucoup de gens, et je voulais la chanter, mais je ne pouvais pas la chanter. Enfin, en français, je l'ai chantée, mais je ne voyais pas. Il me manquait quelque chose. Et quand j'ai découvert l'adaptation de Mandy Kahan, là, je me suis dit, là, parce qu'elle raconte quelque chose en plus.
Oui.
Elle nous décolle, parce qu'on connaît la musique, on connaît cette chanson par cœur, en fait, tout le monde la connaît. Mais tout d'un coup, l'entendre avec cette langue-là, ça lui donne encore plus de... Pour moi, encore plus de force.
Vous voyez, Marc, ma question n'était pas totalement...
Non, mais j'aimais bien
la plaque. J'ai fini par la poser.
Et mes amis, il ne nous reste plus de temps. Allez, 5 secondes.
Parce qu'on parlait de l'adaptation, et à la fin, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, en yiddish, il y a un truc en plus qui fait Heint, Hunt, Hunt. Heint, c'est l'ombre de ton aujourd'hui. Hunt, l'ombre de ta main. Hunt, l'ombre de ton chien. En fait, il y a des petites subtilités en plus qui sont extraordinaires, qui font un tout petit...
Chers amis, il faut nous quitter là-dessus. Malheureusement, le répertoire d'Isabelle Georges est très vaste. C'est beaucoup de Broadway, beaucoup de dance, beaucoup d'entertainment. La chanson française, et puis aussi dance, tapette,
tapette,
claquette. Et puis aussi, ce genre de choses qu'on a entendues. Merci infiniment d'avoir passé cette heure et demie avec nous. Merci beaucoup, c'est très gentil. On vous voit donc, entre autres, le 28 mars, au Bal Blomet, pour ceux qui ont envie de découvrir votre répertoire. Renaud Delourme, à bientôt de vous lire vos productions comme auteur ou comme éditeur, les deux.
Merci Marc.
Merci à vous deux.
Merci.
Je vous souhaite une bonne soirée sur Radio Courtoisie. Et on écoute pour finir, on termine avec le générique habituel. Magnifique François de Roubaix que j'adore, sinon il ne serait pas là.
Vous venez d'entendre Les Neiges du Kilimandjaro, dirigé par Marc Bessou, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 21 février 2026 de 18h à 19h30 et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.